Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, toujours dans notre semaine consacrée à réfléchir aux usages du mot « peuple ». Que dit-on lorsqu'on affirme agir ou penser ou décider au nom du peuple ? Et pour en parler, j'ai grand plaisir à accueillir l'historien Gérard Noiriel, spécialiste de l'immigration et des mondes ouvriers, mais aussi penseur exigeant de sa discipline et de ses pratiques. Bonsoir Gérard Noiriel.
Bonsoir.
Qu'est-ce que le peuple français ? L'ensemble des individus qui ont été liés entre eux parce qu'ils ont été placés sous la dépendance d'un pouvoir souverain, d'abord comme sujet, puis comme citoyen. On lit cette définition au seuil du livre monumental que vous faites paraître aux éditions Agone, Histoire populaire de la France. L'histoire politique, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire pour vous, de la guerre de Cent Ans à nos jours, c'est au fond l'histoire des luttes sur ce qu'est le peuple. C'est là-dessus qu'on se dispute, et c'est cette dispute qui fait la vie politique.
Effectivement, et je dirais même aussi la vie sociale.
La vie tout court.
Oui, la vie tout court. C'est la question des relations, hein, qui vient aussi, enfin, une formation d'historien et de sociologue qui est très influencée par Norbert Elias. Et donc, effectivement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre une population et un peuple? Et effectivement, c'est le lien social. Et au départ, le lien social, c'est effectivement un lien d'assujettissement à l'État. C'est pour ça que je commence à peu près à l'époque de Jeanne d'Arc, puisque à ce moment-là, que l'État se construit. Se stabilise, on pourrait dire. Et donc, on voit d'ailleurs très vite que c'est aussi dans ce contexte-là que les luttes populaires se développent. Donc, pour moi, c'était un fil conducteur très intéressant pour traverser après les siècles, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, parce que l'intention de cet ouvrage, c'est aussi c'est le passé présent, comme on dit. C'est bien aussi sûr. Une histoire qui puisse nous éclairer sur les mutations qui concernent notre présent d'aujourd'hui.
On va parler de ce livre, Gérard Noiriel, mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur votre intention, justement, et sur ce levier d'action qu'est pour vous le savoir sur les sociétés passées pour aujourd'hui. Vous avez été d'abord peut-être un historien des population, justement, en commençant à réfléchir, évidemment, à la classe ouvrière, mais aussi à l'immigration. Vous dites souvent que vous préférez dire que vous avez travaillé sur l'immigration plutôt que sur les immigrés.
Tout à fait. Oui, je n'aime pas ce terme immigré parce que c'est un terme qui réifie, qui crée une identité par le fait, alors que moi, je part du principe qu'il y a des identifications ou alors il y a des processus. L'immigration, c'est un processus qui est, si on généralise aux migrations dans leur ensemble, vous êtes parfaitement placé pour le savoir, c'est qui concerne l'humanité. Enfin, tout le développement des civilisations s'est fait comme ça. Et donc, moi, j'ai étudié ça, effectivement, dans mes travaux pour l'époque contemporaine, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, où le mot immigration s'installe dans le vocabulaire français et entre donc dans la construction, dans l'enrichissement, dans les transformations de cette histoire populaire donc qui est au centre de mon dernier livre.
Et à la fin de votre dernier livre, justement, vous revenez sur la réception, on va aussi parler de ces enjeux de réception, du creuset français, un de vos grands livres, et vous dites qu'il y a eu des malentendus, au fond, et sur le titre, et sur mes intentions, justement.
C'est ça, ça m'a beaucoup frappé, je pense que ça doit frapper d'ailleurs tous les historiens. Quand on écrit, on n'anticipe pas forcément les réceptions d'un ouvrage. Et le titre, vous savez, là, en l'occurrence, c'était Michel Vinoc qui l'avait choisi. Oui. Hein. Mais bon, en même temps, ça disait bien, enfin, l'une des intentions du livre. Mais pour moi, c'était plutôt, vous voyez, la question sociologique du processus d'intégration dans un groupe, là, en l'occurrence, le groupe national. Mais effectivement, ce livre a été pris souvent comme une sorte d'apologie de l'intégration. Mais moi, quand on fait de l'histoire, on n'est pas là pour juger, pour dire que c'est bien, c'est pas bien. On essaie d'observer des phénomènes. Donc c'était, voilà, par rapport à cette volonté d'expliquer un processus de formation, de transformation d'une société, c'est ça qui me motivait. C'est pas forcément ça qui a été compris par le grand nombre d'électeurs. C'est un livre qui a eu pas mal d'écho, mais voilà, parfois avec des incompréhensions.
Alors, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là non plus pour réparer. Vous vous méfiez évidemment beaucoup des assignations identitaires, mais parfois sous votre plume, je pense à ce livre que vous avez publié voici 15 ans, Penser avec, penser contre, j'y reviendrai, Itinéraire d'un historien, vous dites on est là pour aider à mieux vivre. L'historien aide à mieux vivre en éclairant et en émancipant. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Parce que je pense que c'est au cœur aussi de votre projet en longue durée, si j'ose dire. La longue durée d'un itinéraire d'historien.
Voilà, oui, ben, je suis content que vous mettiez l'accent là-dessus, parce que c'est pour moi la principale ambition civique que doit avoir un historien. Et vous savez, aider les gens à mieux vivre, c'est pas une formule de moi, je l'ai emprunté à Marc Bloch. Hein, c'est, je me situe dans cette filiation-là. Donc je dis toujours que moi, je défends pas des causes, hein, je défends pas les causes de tel ou tel, mais je pense que, parce que ça a été aussi un petit peu mon histoire personnelle, venant d'un milieu populaire, je l'explique, c'est-à-dire la découverte de la science, de la recherche, a contribué à ce processus d'émancipation personnelle par rapport aux tutelles qui pesaient sur moi, comme elles pèsent sur tout le monde. Et c'est pour ça que je m'inscris quand même dans une filiation qui est celle qui vient peut-être des Lumières, ou en tout cas le bon côté de la République, je dirais, du savoir comme un instrument nous permettant aussi donc d'acquérir une forme de liberté et aussi de responsabilité, parce que pour moi les deux vont avec. Donc c'est pour ça que dans ce livre je dis se rendre étranger à soi-même dans l'introduction. Je trouve que cette formule est intéressante parce qu'elle montre qu'aussi on nous-mêmes on n'est pas immunisé contre les préjugés. C'est un travail constant qu'on doit répéter et voilà, j'essaye de contribuer à ça et en même temps de le faire encore pour moi-même.
Et le travail de l'historien, c'est justement de faire retour aussi, vous l'avez fait à plusieurs reprises, sur ce qui nous contraint. Toujours restons un petit peu sur cet itinéraire d'un historien. Il se clôt par un essai auto-réflexif, à la Bourdieu un peu, on pourrait dire, qui s'appelle « Un désir de vérité ». Et l'exergue est emprunté à Jules Michelet dans « Le Peuple », 1846. « La difficulté n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi ». C'est vraiment votre thème, je dirais, d'historien, de citoyen, et on va y venir, de créateur.
Oui, je dirais, c'est vrai que cette citation de Michelet, je cite Peggy dans ce nouveau livre, autour de la même idée.
Autour de la même idée.
C'est ça, voilà. Quand on change de milieu, les transfuges sociaux, comme disait Bourdieu, il y a une sorte de migration aussi, hein, de milieu social. Et donc, quand on veut être un peu honnête avec soi-même, ben, je dis pas que c'est général, et moi, j'en fais pas quelque chose je défends pas cette idée-là. Je dis que c'est comme ça, pour moi, par le fait. Il y a cet sentiment quand même de culpabilité qui nous traverse, et surtout comme moi je suis issu d'une famille nombreuse avec des destins sociaux très différents, et donc évidemment là ça c'est pas abstrait, hein, c'est très concret dans les réunions de famille, etc. On voit bien comment le fossé se creuse, oui, par le fait, et donc il peut y avoir, mais il faut aussi faire attention à ça, hein. L'idée de dire il faut que je reste fidèle, et donc il faut que voilà, une certaine façon de concevoir l'histoire, je pense, influe et est marquée par cette trajectoire là
oui. Et puis cette somme qu'est l'histoire populaire de la France, qui est aussi un bilan pour vous de toutes ces recherches et de ce désir de vérité que vous mettez à l'œuvre dans votre travail, en disant que vous tentez aussi de le concilier avec la volonté d'être utile aux plus démunis, ça aussi vous l'écrivez. D'une certaine manière, ça, j'y reconnais, mais peut-être ai-je tort, une critique qui est lancinante chez vous, qui est moins la critique des intellectuels que la critique des porte-paroles. Et ça, peut-être, ça vient de Bourdieu, de lecture, mais ça vient aussi de votre expérience, des luttes à l'ouï, c'est-à-dire, au fond, vous détestez les porte-paroles.
Je dirais pas détester, parce que justement, quand je dis me rendre étranger à moi-même, ça a été de passer de la détestation à la compréhension. Voilà. Ça a été, parce que c'est vrai qu'au départ, donc, il y a toute une, j'explique ça dans cette postface dont vous parliez, j'étais fasciné, moi, par les auteurs qui avaient un langage violent. J'ai été marxiste, etc. Et le Bourdieu qui m'a séduit au début, c'était le Bourdieu qui avait un langage violent. Et petit à petit, bon, mais il y a aussi un travail que j'ai fait là-dessus. C'est-à-dire quand moi-même j'ai subi parfois des violences verbales par rapport à ce que j'écrivais, j'ai compris quand même ce que ça pouvait faire et parfois que ça pouvait être injuste, etc. Bon. Bref. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison et c'est pas souvent forcément souligné. C'est vrai que la question des porte-paroles, pour moi, a toujours été, c'est parce que, effectivement, quand j'étais en Lorraine, donc c'était mon premier poste d'enseignant dans un collège, j'ai eu cette grande lutte ouvrière, et il y avait un décalage extraordinaire entre ce que vivait la population locale, cette lutte, et tous les porte-paroles de tous les partis, de tout ce qui se racontait un peu partout. Et c'était le moment, effectivement, où je lisais Bourdieu, Foucault aussi, sur ces questions-là, et voilà. Donc, ça est devenu un principe aussi méthodologique, qui correspondait bien à ma conception de la socio-histoire, parce que que même quand on parle d'un groupe social, ben, on a toujours cette question-là. Qui parle au nom des autres? Oui. Et évidemment, ça ne nous rend pas forcément populaires. Hein. Si vous dites ça par rapport à Sarkozy, là, vous avez beaucoup de gens qui vous applaudissent dans nos milieux, j'entends. Oui. Hein. Mais si vous dites ça par rapport aux associations qui luttent contre le racisme, etc., là, ça devient...
C'est autre chose.
Voilà. Mais moi, mon universalisme, c'est que je parle de la même manière à tout le monde.
Pour vous rendre étranger à vous-même, voilà. Et justement pour critiquer, ne jamais parler au nom du peuple. Hein,
voilà.
Pour reprendre ça par définition,
c'est vraiment, pouvoir pour
c'est
moi,
toujours un abus de pouvoir. Ouais. Et le mésusage politique, d'une certaine manière, il est obsessionnellement répétitif dans l'histoire, on le voit bien.
Voilà, on le voit bien. Et donc je conçois qu'il y ait des... Je veux pas critiquer la fonction de porte-parole, c'est les partis, etc., c'est normal. Mais que nous, en tant que chercheurs, on confonde les positions, c'est ça qui me dérange vraiment.
Je comprends très bien. Alors, cette histoire populaire de la France, évidemment, elle explicitement, elle fait signe vers un grand précédent, celui de Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis de 1492, et lui aussi commençait au XVe siècle, bien obligé, à nos jours, et qui fut aussi édité par les éditions Agone. En écho, ça commençait par l'écho des premiers mots du préambule de la Constitution américaine, « We the people », il s'interrogeait « De quel peuple écrit-on l'histoire ?» Et pourtant, vous, c'est votre référent, mais vous dites l'historiographie a depuis beaucoup travaillé. Ce serait exagéré de dire qu'on n'entend plus la voix des humbles. Mmh. Et moi, je fais pas l'histoire des dominés, Gérard Noiriel, je fais l'histoire de la domination.
Tout à fait, oui, je pense que c'est plus... innovant que de refaire, je dirais, de faire croire aujourd'hui que on pourrait refaire Zinn. Parce que lui, il a écrit effectivement dans les 70. Donc effectivement, à ce moment-là, il y avait toute une série de choses qui étaient laissées dans l'ombre, l'histoire des dominés, en gros. Donc l'histoire de la domination, c'est autre chose. Ça emprunte plus à la sociologie. Et puis c'est aussi, si vous voulez, quand on parle du populaire, par exemple. Ce que je montre dans le livre, c'est que l'identité même des classes populaires, elle est construite par les dominants. Donc si vous occultez constamment les dominants, vous pouvez pas comprendre. Il y a une dialectique, c'est ça que je veux montrer dans ce livre. Il y a une dialectique, et souvent donc les images, je montre comment le populaire, c'est un enjeu de lutte constant entre le 15e siècle et aujourd'hui, et les dominés s'approprient les images qui sont construites par les dominants, mais après, ils les retournent contre les dominants. Oui. Et du coup, les dominants eux-mêmes sont obligés d'évoluer. Donc c'est cette dialectique qui me semble intéressante pour comprendre ce qu'est aujourd'hui, le peuple français, j'ai pas peur de dire, on a le droit de prendre comme objet d'étude le peuple français. C'est pas du tout faire une concession à je ne sais quoi. C'est un enjeu aussi par rapport à d'autres définitions que conservatrices ou obscurantistes qu'on trouve aujourd'hui.
Ce qui engage d'autres choix narratifs, puisque vous dites, eh bien, dans ce cas-là, voilà, je vais faire un récit de l'histoire du peuple français parce que sinon, si je fais une histoire sectoriel, dédominé, je risque toujours d'en oublier. Voilà. Alors qu'en faisant l'histoire de la domination, on a le système. Voilà. Et c'est ça qui éclaire.
C'est ça qui éclaire et qui permet après d'articuler différentes formes de domination. Même si je mets l'accent sur les questions sociales, évidemment, les autres formes de domination, c'est pour ça que j'accorde une grande place au colonialisme dans ce livre, à l'immigration, à la domination masculine, etc., en montrant comment ça peut s'articuler et comment toujours on peut retrouver le social. C'est ça qui me préoccupait aussi, parce que c'est aussi un enjeu par rapport à aujourd'hui, ou une forme de segmentation comme ça des luttes qui me préoccupe, je dirais. Donc voilà, l'ambition de ce livre, c'est aussi de montrer que constamment dans l'histoire, on peut retrouver l'articulation des formes de domination sociale. Et je dirais donc, les relations de pouvoir, pour moi, c'est à la fois de la domination, mais ça peut être aussi de la solidarité. Ça, c'est très important.
Et on la voit à l'œuvre.
On la voit à l'œuvre dans le livre, à différents niveaux, et ça m'a paraissait important de souligner cela.
De le souligner et de le mettre en œuvre, peut-être aussi, Gérard Noiriel. Et là, on est au croisement de votre science d'historien et de votre engagement. Engagement pour la socio-histoire, vous êtes fondateur de la revue Genèse. Engagement pour aussi le comité de vigilance des usages de l'histoire en 2005. Et puis, 2 ans plus tard, vous fondez aussi, mais d'ailleurs, Howard Zinn avait fait du théâtre également. Donc là encore, il y a une filiation, vous fondez un collectif qui rassemble chercheurs, acteurs et militants associatifs pour aller porter la parole savante dans les milieux populaires, justement, par ce que vous appelez aujourd'hui des conférences gesticulées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors donc j'avais fait aussi partie des fondateurs du musée de l'immigration, qu'on appelait la Cité nationale d'histoire de l'immigration, sous l'égide de Jacques Toubon.
Et vous démissionnez en 2007.
On a démissionné avec sept collègues du conseil scientifique parce que Nicolas Sarkozy avait créé le ministère de l'identité nationale. Vous voyez un petit peu l'hérésie que ça représentait pour nous. Et donc ensuite, avec le petit groupe qu'on avait formé pour réfléchir aux liens qu'on pouvait tisser avec les artistes, on a créé cette association qui s'appelle DAJA, D-A-J-A. On a un site, il suffit de taper DAJA, vous trouverez. Et puis donc on a réfléchi comment on pourrait traduire des connaissances savantes dans des langages que les artistes connaissent, mais que nous, en tant qu'historiens, on maîtrise pas, quoi. Donc c'était un échange de compétences par le fait autour de ce projet. Et notre premier projet, ça a été d'ailleurs ce clown chocolat. Mais mes amis artistes m'ont dit, tu connaîtrais pas un personnage qui nous permettrait d'aborder pour des jeunes, des quartiers populaires, etc., la question du racisme. J'ai cherché, etc. Puis j'ai vu une note de bas de page dans un bouquin sur le clown chocolat. Bon, personne.
C'est une note de bas de page qui a mal tourné, en fait, hein, le clown chocolat. Enfin, qui a très bien tourné, qui s'est porté sur les écrans.
Voilà. Et donc, du coup, on a découvert une histoire extraordinaire qui a été complètement oubliée. On a fait un spectacle. Au début, j'étais même sur scène avec un musicien et un comédien, etc. Et donc, j'ai commencé à ce genre d'entreprise. Et c'est très, très dur, hein. Faut pas se leurrer. C'est beaucoup plus dur que de faire des cours ou des conférences parce que le rapport au public est pas le même. On travaille dans des endroits, voilà, où on ne lit pas de livres, etc. Dans les écoles beaucoup aussi. Mais je pense que c'est utile, quoi. Enfin, les gens qui ont le souci de l'engagement, je veux pas non plus en faire. Mais pour moi, c'était important parce que, si vous voyez, je travaillais depuis longtemps dans des conférences publiques, les questions du racisme, etc. Mais, en étant honnête avec soi-même, je rends bien compte, je parlais toujours à des gens qui étaient déjà convaincus.
Déjà convaincus.
Donc pour aller au-delà, il fallait faire autre chose. Et là, on continue et voilà, on fait des conférences gesticulées. Il y a une version...
Ça veut dire quoi, conférences gesticulées?
Alors, ça vient d'un artiste de l'éducation populaire qui s'appelle Franck Lepage, hein, qui a mis ça au point. Et pas mal d'universitaires aujourd'hui reprennent un petit peu le concept. Et ben, moi, je travaille... Alors, il y a différentes variantes. Moi, je travaille avec des comédiens, une comédienne, metteur en scène. Et là, on en a une sur nos enfants. Être les migrants qui va tourner pas mal à partir du mois de bientôt.
Et c'est comme ça que commence votre livre aussi.
Oui,
hein,
oui, voilà.
De la France.
Et donc, qui est une version non livresque de l'histoire populaire. Donc voilà, et donc c'est des choses qui durent trois quarts d'heure, 50 minutes, et après on a un débat. Mais à chaque fois, on se dit, au lieu que je fasse un grand laïus, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme symbole, comme geste, comme, vous voyez, des choses de. Pour mettre en œuvre, je dirais, de l'intelligibilité, mais pas sous une forme de livresque.
Et puis, vous êtes un historien, Gérard Noiriel, un historien du travail, et un historien qui défend le métier d'historien. Voilà. Défendre le métier, ça vous paraît évidemment une sorte d'éthique professionnelle. C'est encore ce que vous avez répondu assez récemment, le 29 septembre, je crois, dans une tribune contre Éric Zemmour, qui entend, je le cite, « arracher l'histoire aux historiens professionnels pour en refaire une arme politique ». Et vous dites, nous, on a un métier, on le défend, mais on peut le défendre partout. On peut le défendre dans le livre ou sur scène ou dans les associations. C'est ça votre position.
Oui, c'est pas du tout contradictoire d'un côté de défendre la profession d'historien, de l'autre d'essayer de diffuser à un public non universitaire ce qu'on fait. Oui, je pense, il faut bien voir quand même que le métier d'historien en tant qu'universitaire, c'est un acquis de la démocratie. Je veux dire, c'est quand même le 19e siècle où on a décidé que la recherche historique était utile aussi pour le progrès de nos sociétés, etc. Donc, ce serait une régression extraordinaire. Et en plus, on le voit bien qu'il y a des enjeux autour de tout ça. Donc, ce serait une régression extraordinaire si on ne défendait pas notre métier. Je reproche parfois à certains de mes collègues de ne pas prendre ça assez au sérieux par le fait. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas non plus sombrer dans le corporatisme, se croire meilleur que les autres. Enfin, c'est pas ça du tout. Mais de même que quand vous allez voir un médecin, vous espérez qu'il est compétent, hein, ou un plombier, ou enfin tous les métiers. Ce principe-là, je le défends. Mais je le défends au nom du travail, justement. Pas au nom du génie. Mais quand vous avez passé 30 ans, 40 ans de travail sur un thème, vous en savez plus que celui qui le découvre, qu'elle l'a découvert la veille. Et c'est ça, donc notre métier, il est fait d'un ensemble d'outils que nous manions, avec aussi des controverses, on n'est pas toujours d'accord sur tout, etc. C'est ça la vie de la recherche scientifique. Donc on va pas se laisser quand même abuser par des gens qui nous répètent ce qui est tout à fait classique, vous savez, on en trouve déjà au 19e siècle, des gens qui récusent la recherche historique pour nous vendre leur fonds de commerce. Donc tout ça, oui, c'est des enjeux importants encore aujourd'hui. Oui.
Alors vous en savez beaucoup, Gérard Noiriel, sur l'histoire du peuple français, et vous voulez nous faire entendre une chanson,
oui,
que vous avez choisie. On l'écoute et puis,
d'accord,
on en parle après. Ça nous permettra de rentrer à nouveau dans votre livre, Une histoire populaire de la France, qui vient de paraître aux éditions Agon.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
France Culture, matière à penser. Patrick Boucheron.
En compagnie de Gérard Noiriel pour son livre Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. Douce France, donc. Charles,
oui,
Trenet a...
Oui, oui, ben oui, j'ai choisi
cette
chanson puisque je voulais rendre hommage à Rachida. Puisque vous savez, peut-être pas, mais nous avons la même origine. Nous,
ah oui,
sommes Vosgiens tous les deux. Et voilà, il a passé son enfance dans les Vosges, comme moi.
Après, oui, vous en parlez beaucoup.
Voilà. Et après, il a été à Lyon, il a fondé ce groupe Carte de Séjour. Et puis, alors évidemment, cette chanson, c'est extrêmement intéressant, l'histoire aussi de cette chanson Douce France, parce que ça vient de Charles Trenet. Puis, dès l'époque de Charles Trenet, vous savez, ça a été une chanson qui a été interprétée dans des sens différents. Il, pareil qu'il l'a mise au point sous Vichy, donc certains l'ont considéré comme étant une sorte d'apologie de la France rurale, etc. Mais après, elle est sortie, je crois, en 47, ça a été l'inverse, c'est plutôt le patriotisme, etc. Et puis cette reprise, évidemment, par ces jeunes issus de l'immigration, ça a été aussi un sujet d'incompréhension. Puisque certains... donc elle a été sortie en disque en 86... Et donc au moment, vous savez, où la montée du Front National, etc. Donc Rachida et son groupe ont été appropriés par, je dirais, par le Parti Socialiste.
Oui.
Et ils en ont fait un petit peu les porte-paroles de l'intégration, ce qui n'était pas du tout leur intention au départ, parce que vous avez vu la tonalité, etc. C'était, ils disaient, on a le droit, nous aussi, de s'approprier le patrimoine de la France, quoi, à notre manière. Puis en même temps, il y avait un côté dérision par rapport à cette douce France qui a bercé d'insouciance, quand on sait quand même ce qu'ont subi ces enfants issus de l'immigration par rapport au racisme, à la discrimination, etc. Évidemment, là, il y a une ironie assez cruelle dans cette chanson. Et donc, quand ils ont pris leur distance par rapport à cette interprétation, je dirais, black blamber, etc., eh bien, voilà. Et du coup, ils ont été un peu marginalisés.
Voilà. Ce qui pose d'ailleurs le problème de cette... l'histoire des cultures populaires et aussi l'histoire du dédain des élites pour elles, c'est
ça,
un des fils,
oui,
rouges,
oui,
de votre livre, oui. Et d'ailleurs on pourrait le dévider en chanson. Il y a un chapitre intitulé « Balance ton corps » qui est,
oui,
intéressant. C'est moins une histoire de la gaucherie que l'on prête au corps populaire qu'une histoire de la discipline de ce corps par la télévision. Et
oui,
il y a un passage sur Johnny Hallyday.
Oui, oui, oui.
J'ai hésité parce qu'on aurait pu parler de Lavilliers, mais on, oui, va parler de
oui,
Johnny,
oui,
Hallyday. Je vous en cite quelques lignes. En décembre 2017, les obsèques du chanteur Johnny Hallyday ont suscité un immense intérêt populaire populaire, savamment orchestré par les médias, parce qu'il incarnait au plus haut point cette rupture-là, c'est-à-dire la question de la télévision et des médias de masse. Alors que j'ai oublié des dizaines de milliers d'images diffusées depuis 50 ans, je me souviens parfaitement de la première apparition de ce chanteur à la télévision en 1960. En voyant cet inconnu qui se déhanchait sur scène, sa guitare à la main, je pense que les classes populaires ressentirent le même choc que la jeunesse bourgeoise quand elle découvrit au nouveau cirque de la rue Saint-Honoré la gestuelle des artistes noirs américains qui dansèrent pour la première fois le Cockwalk en 1902. Il y a beaucoup de vos thèmes de recherche d'historien dans cette phrase
de Gérard Noiriel. Oui, et puis voilà, il y a aussi... C'est ça, je le dois beaucoup à Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que la question du corps, comment les rapports sociaux passent aussi à l'intérieur du corps, et ça correspond aussi à mon expérience personnelle. C'est pour ça que je l'ai mis. Je pense que faut voir que nos générations, et peut-être moi plus que d'autres, mais on a aussi connu la violence physique. Aujourd'hui, les jeunes générations ne se rendent pas compte de ça. Hein.
Certains quand même. Certains, c'est vrai.
Et donc, la gestuelle qu'on voyait comme ça, incarnée par les rockers comme Johnny Hallyday ou autres, évidemment, elle était en rupture par rapport à Tino Rossi, etc. Et donc, ça passait pas par le biais du langage. Là, on revient justement à cette question-là. Il y avait une sorte de dissidence qui était exprimée par une gestuelle iconoclaste par le fait, et il y avait donc une identification, on est dans l'ordre de l'émotionnel par le fait, et moi je considère rétrospectivement, ça a été le premier moment dans mon émancipation par le fait, par rapport voilà, à la forme de domination domestique, familiale, etc., ou scolaire, hein, parce que ça passe, la discipline scolaire à l'époque était très très forte, et donc c'est pour ça que justement, comme c'était un peu le contexte aussi de la mort de Johnny Hallyday, j'ai voulu rappeler ça, parce que je dis bien dans les milieux populaires, parce que dans la jeunesse bourgeoise, peut-être il y avait Bob Dylan, etc., il y avait d'autres références qui étaient plus cultivées, plus transnationales, etc. Mais pour nous, Johnny Hallyday, oui, son impact était lié à sa gestuelle et puis à cet instrument de musique qui tranchait effectivement aussi avec l'accordéon, oui, qui était l'instrument de nos parents.
Et d'ailleurs, si on voulait, on pourrait continuer à tirer ce fil de Johnny Hallyday, parce que c'est l'histoire du geste, c'est l'histoire de la jeunesse, c'est l'histoire de la télévision, c'est une histoire coloniale aussi.
Oui, c'est toute cette période, je dirais, que moi, je sur laquelle j'insiste, parce que je crois que c'est la gestation aussi de ce qui se passera en 68. Donc, 8 ans plus tard, mais il y a une gestation qui dure toutes les années 60 et qui va expliquer aussi comment les différentes fractions de la jeunesse, quel que soit leur milieu social, vont pouvoir se retrouver au cours de ces événements-là.
C'est d'ailleurs une histoire à rebours qu'on pourrait faire à partir de ces années 60 qui sont fondamentales dans votre livre et aussi évidemment dans votre formation. Et c'est l'histoire toujours à recommencer, en somme, hein, une lutte à mener pour la conquête de la légitimité des cultures populaires. En 1936, vous analysez le cinéma du Front populaire, La belle équipe de Julien Duvivier, et vous y voyez, je vous cite, un nouvel épisode du feuilleton chapeau bas devant la casquette. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce feuilleton chapeau bas devant la casquette?
Oui, alors c'est un petit clin d'œil. Alors ça fait référence à un titre de chapitre, hein, que j'ai consacré donc à 1848, un petit peu cet événement-là. Et donc ça fait référence à un petit clin d'œil à Flaubert, l'éducation fondamentale, puisqu'il raconte...
L'éducation sentimentale, oui.
Oui, dans l'éducation sentimentale, il y a un passage où il raconte donc les événements de 1848, au moment où justement, à ce moment-là, les bourgeois, même les aristocrates, au moment où les ouvriers montent sur les barricades, renverse Louis-Philippe, etc., eh bien, sont tous prosternés devant la classe ouvrière. C'est l'éruption de ce terme de classe ouvrière qui c'est à ce moment-là. Et donc, j'ai dit, voilà, on peut retrouver à chaque époque quand le peuple se met en branle et voilà, prend le pouvoir, ou simplement, comme en 68 ou en 36, se manifeste massivement dans l'espace public, il y a des mutations qui se font et qui concernent l'ensemble de la société. Et à ce moment-là, effectivement, les élites se prosternent, donc chapeau bas dans la casquette. Et donc en 36, c'est le cinéma. Il y a un cinéma populaire avec Jean Gabin qui incarne le prolo, le métallo de chez Renault. Voilà, donc c'est... ça, c'est effectivement quelque chose de récurrent et je montre que c'est les luttes populaires qui permettent aussi ce changement de regard. Mais malheureusement, quand on est dans des périodes à l'inverse où il y a une démobilisation populaire, là, les intellectuels ont tendance à se détourner.
Et c'est un refrain de Béranger, chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier. Donc, ce feuilleton, eh ben, vous le menez en longue durée. Il faut rappeler que on commence, pendant la guerre de Cent Ans, il y a des chapitres sur les révoltes populaires, antifiscales, à l'époque de la monarchie absolue. Et au fond, c'est une histoire à éclipse. C'est une histoire qui est, comme Michel Zancarini-Fournel l'a montré aussi, qui est une histoire intermittente, une histoire d'émancipation qui s'offre et qui se retire sans cesse.
Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi forcément, quand on fait une histoire de France, on est obligé de faire des choix. Mais c'est des choix qui sont justifiés par effectivement cette relation au populaire et cet impact du populaire avec ces moments d'éclipse, avec ces moments aussi de compromis. Par exemple, j'éclaire le Second Empire, la popularité de Napoléon III, par exemple. À contrario de ce que écrivait Marx, même si Marx m'a influencé sur d'autres choses, comme Bourdieu d'ailleurs, je n'hésite pas à porter la critique, même par rapport à ces génies de la pensée. Et donc Marx a quand même une vision que je trouve quand même très très ethnocentriste, bourgeoisie intellectuelle par rapport au monde paysan. Oui. Et si le monde paysan en France va soutenir Napoléon III jusqu'au bout, quasiment, c'est aussi parce qu'il voit son intérêt, parce que Napoléon III fait des compromis. Enfin, c'est ce compromis de classe. C'est pour ça que j'appelle ce chapitre des usines à la campagne. C'est toute cette réflexion qui est de dire faut installer des fabriques dans les campagnes pour éviter que les paysans soient déracinés. Et donc il y a aussi cette logique qui aura un impact très important puisque finalement c'est la faiblesse de l'exode rural plus le malthusianisme paysan qui fait qu'il y aura un déficit de main d'œuvre à la fin du XIXe siècle, l'éclatement de la deuxième industrialisation, et du coup qu'on ira chercher des immigrants. C'est cette spécificité française. Donc des fois on a des choses qui viennent de très loin, et qui ont un impact dans la période récente de notre histoire.
Et donc, Gérard Noiriel, là, vous mobilisez évidemment votre savoir d'historien de la classe ouvrière, de l'industrialisation, de l'immigration, pour, en somme, dans ce livre, une histoire populaire de la France, tirer deux fils narratifs, un plutôt continu, puisque vous nous avez expliqué pourquoi il s'agit de faire le récit de la domination, et un discontinu, qui est, au fond, l'émergence toujours contrariée de cette voix du peuple qui, à certains moments, est entendue, mais la plupart du temps, est tue.
Voilà, c'est-à-dire que évidemment, c'est dès que les conjonctures, disons, de révolte ou révolutionnaires s'affaiblissent, la voix du peuple se fait de moins en moins entendre. Mais ce que je voudrais quand même rappeler aussi, c'est que même les luttes sociales, les luttes populaires qui sont perdantes, il en reste quelque chose. Je le montre à différentes époques. C'est un motif peut-être pour réconforter les gens qui se luttent aussi aujourd'hui par le fait. On peut constater, et j'en donne de multiples exemples, que même les luttes qui sont perdantes font évoluer, transforment les rapports sociaux. Parce qu'il y a aussi une mémoire au sein des élites, des luttes passées.
Et donc, il y a une expérience des luttes
qui se transmet aussi des deux côtés, finalement. Et donc, c'est aussi la question de l'État. J'insiste beaucoup sur la question de l'État. L'État qui est souvent arbitre de ces conflits sociaux, qui les intègre, qui évolue et qui peut amener des progrès. Moi, je montre comment on passe d'un État royal à un État, disons, républicain, un État national et un État social. C'est des femmes successives qui sont aussi le produit de toutes ces luttes multiséculaires et qui posent la question aussi de l'aujourd'hui. Où en sommes-nous avec des, on sait aussi, tout un courant libéral qui vise à démanteler l'État social, etc. Bon, ben, je pose aussi cette question-là dans ma conclusion.
Alors, où en sommes-nous? Oui, on va y venir. Où en sommes-nous? Effectivement, là, on est plutôt sur le versant déprimant, ou en tout cas inquiet, du livre, parce que il y a ce feuilleton des cultures populaires qui trouvent de temps en temps à se faire entendre, mais il y en a un autre que vous appelez la rhétorique de l'inversion. C'est-à-dire, lorsque, au fond, les dominants réussissent à faire passer les dominés pour des dominants, et le plus souvent en politisant la race. Alors là, ou les origines. Là, c'est évidemment vos deux thèmes de recherche, la classe ouvrière et l'immigration, qui se croisent, Gérard Noiriel. C'est que vous montrez comment, depuis les années 30, au fond, peut-être même avant, eh bien, les moments de domination les plus durs sont les moments où, d'une certaine manière, on fait oublier la domination sociale par, justement, le partage des origines.
Voilà, ça c'est effectivement une question très importante qu'on peut même faire remonter, je dirais, aux guerres dites de religion.
Hein, oui, c'est ce que vous faites.
Dans le chapitre 2, dans l'Empire colonial aussi, on voit à chaque fois que, effectivement, quand il y a une solidarité qui se construit entre voilà les dominés, les gens qui sont dans les victimes de les pauvres, etc. Et bien quand cette solidarité se construit, on voit les stratégies des dominants visant à les diviser, et très souvent effectivement c'est le facteur identitaire qui est remis en avant. C'est comme ça que, à mon avis, on peut expliquer la racialisation, y compris dans le premier empire colonial, hein, aux Antilles, etc. Comment, voilà, dans les guerres de religion, on voit très bien les formes d'appropriation de la religion, comment ça se lie à des questions économiques, sociales, des questions politiques aussi. Et effectivement, alors là, plus on arrive à la période récente, plus ces questions-là deviennent lancinantes. Et j'éclaire ça aussi pour montrer que, eh bien, on est encore dans ce contexte-là aujourd'hui. Et donc, bien sûr, faut prendre en compte la diversité aussi des formes de souffrance qui existent dans une société, mais si on les déconnecte, comme font un certain nombre de gens aujourd'hui qui militent contre les discriminations, etc., si on les déconnecte des questions sociales, je crois qu'on rend finalement un mauvais service à la cause qu'on défend. C'est vraiment pour moi une conviction très forte que j'essaye d'étayer par mes recherches, qui amène donc à tous les citoyens qui d'aujourd'hui à repenser un petit peu ces questions-là, voilà, pour être peut-être plus efficace dans les luttes qu'ils mènent aujourd'hui.
Quand vous voyez aujourd'hui, Gérard Noiriel, la gauche antilibérale si ambiguë sur la question de l'immigration, ça vous désole, ça vous décourage?
C'est-à-dire que, en tant que citoyen, moi-même engagé depuis que je suis étudiant dans ces combats pour les droits de l'homme, contre le racisme, etc., effectivement, ça me désole. En tant qu'historien, j'essaie d'expliquer les contraintes qui pèsent sur l'action. Et donc, là, on touche à un problème qui est finalement dans la société. C'est-à-dire que ces arguments visant à dire c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrés, etc., on sait qu'ils sont pas nouveaux. De manière récurrente, c'est ce que j'ai montré à multiples reprises dans mes travaux, ils sont récurrents et ils ont toujours une certaine efficacité, c'est ça le malheur. Ils ont une certaine efficacité au sein des classes populaires. Et donc ça a toujours été un problème difficile pour la gauche. On le peut le voir dès la fin du 19e siècle, dans l'entre-deux-guerres, etc. Donc c'est un combat permanent. Mais ce que je montre aussi, et je voudrais que là, les gens de gauche intègrent bien cette idée-là, quand est-ce que la gauche a gagné politiquement? Elle a gagné, je dirais, on peut dire schématiquement, à trois reprises, après l'affaire Dreyfus, bloc des gauches, en 36, après le front antifasciste, donc réunion des gauches, et puis à l'époque de Mitterrand. Et à chaque fois, c'était une alliance entre le mouvement ouvrier, le mouvement social, et le mouvement humanitaire, et les humanitaires, à chaque fois. Donc il faut forcément qu'il y ait une alliance entre ces composantes pour que la gauche puisse redevenir hégémonique. Donc de ce point de vue-là, on peut, sans sortir, vous voyez, de l'analyse historique, montrer que c'est un mauvais calcul que d'aller dans ce sens-là. Mais en même temps, on peut comprendre combien ça peut être difficile pour des gens qui sont dans l'action politique. J'essaye, vous voyez, de ne pas jouer les donneurs de leçons.
Oui,
parce
ça,
que
on comprend.
C'est aussi, vous voyez, c'est trop
mais
une tendance actuelle.
Le découragement peut être aussi là. Il est légitime.
Oui, voilà. Donc, je pense que, voilà, à partir d'arguments comme ça et d'analyses, on peut éclairer peut-être et donner, une réflexion qui peut déboucher sur une reprise, je dirais, des grandes traditions de la gauche humaniste.
Dans votre dernier chapitre, vous êtes sur le moment présent, vous lisez Révolution du candidat Emmanuel Macron et vous remarquez que les termes qui désignent les classes populaires sont empruntés au vocabulaire de l'Église médiévale, pauvre, modeste, démuni, faible. On ne peut pas dissoudre le peuple, mais on peut changer son nom.
Voilà, oui, je trouve que là aussi j'ai essayé de faire une analyse historique, donc j'ai pris parce que tout le monde disait que c'était un tournant dans l'histoire de France. importante. Je voulais l'analyser, donc j'ai pris son programme politique qui s'appelle Révolution. Donc c'était vraiment le titre impliquait déjà une analyse historique. Et l'histoire est très présente, j'ai trouvé dans son livre. Et donc j'ai fait une analyse et j'ai montré effectivement qu'en fait que le peuple au sens classe populaire était complètement absent. Il a tendance à voir l'histoire de France comme une histoire de classe moyenne, pas les riches, etc., mais surtout classe moyenne, les ingénieurs, voilà, les artistes, les voilà. Et du coup, il ne voit pas les classes populaires comme des gens qui apportent une richesse à la société. Donc d'ailleurs, je lui ai envoyé mon ouvrage et il m'a répondu en disant qu'il allait le lire avec beaucoup d'attention et qu'il en tirerait sûrement profit. Donc je suis plein d'espoir.
Bonne nouvelle, plein d'espoir.
Faut jamais désespérer. Et en tout cas, voilà, c'était une volonté pour moi de rester quand même sur le terrain historique, même si évidemment là on arrive à une certaine limite, je veux pas non plus jouer les hypocrites.
Ça justifiait enfin, d'ailleurs oui. L'histoire de longue durée, puisque c'est un très vieux vocabulaire. Hein, effectivement,
c'est un très vieux vocabulaire, effectivement, et comme j'avais analysé justement ce vocabulaire à l'époque, enfin au Moyen-Âge même, donc là on faisait un peu, la boucle était bouclée si on veut dire.
J'ai une dernière question pour vous Gérard Noiriel, dans un de vos articles que Penser avec, Penser contre rassemblait aux éditions Belin, bel article consacré à la promenade au phare de Virginia Woolf. Vous montriez comment, voilà, un sentiment, là, en l'occurrence, la haine du père pouvait être un levier pour soulever le monde des apparences et écrire l'histoire des gens d'en bas. Alors, les gens d'en bas pour Virginia Woolf, c'est les femmes de la bourgeoisie anglaise. Voilà. Et ça, elle le voit très bien. Elle voit très bien ce qu'est la domination masculine. Mais dans le même temps, les domestiques autour d'elle, elle ne les voit pas. Voilà. Pas du tout. Et donc, chaque lucidité se paye d'un aveuglement. Est-ce que vous savez où est votre point aveugle? Qu'est-ce que vous ne voyez pas?
Par définition, si c'est mon point aveugle, j'aurais du mal à le voir, mais je suis prêt à admettre qu'il en existe. Et c'est pour ça que je suis toujours désireux de susciter de la conversation. C'est une des grandes références philosophiques. C'est un philosophe américain qui s'appelle Richard Rorty, qui est très peu connu en France, malheureusement, et qui plaide pour de la conversation, c'est-à-dire pour de la controverse et pas de la polémique. J'ai d'ailleurs, vous savez, inauguré à nouveau, j'en avais eu un il y a quelques années, mais un blog autour de cette question-là, en disant, sur les réseaux sociaux, arrêtons d'être toujours dans la dénonciation, parce que ça ne sert pas, moi je suis convaincu que ça sert pas à la cause à laquelle on croit, enfin beaucoup de gens croient. Donc il faut aussi réserver un espace où on puisse discuter des questions comme le racisme, la domination masculine, tout ce qu'on voudra, mais avec un peu de recul, parce que si dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes immédiatement classé dans un camp ou dans un autre et qu'on vous dit que vous servez la cause du Front National ou de je ne sais quoi, c'est fini, on ne peut plus réfléchir à tout ça, et c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à ceux que nous combattons. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre étanche à soi-même. Quand vous avez des gens, vous trouvez sympathique par le fait qu'ils vous disent du bien de vous aussi quelque part, et puis qu'ils vous disent, ah oui, mais là, bon, ça va pas, etc.
Là, il y a quelque chose que tu vois
dites,
pas.
Mince, oui, j'explique ça dans mon livre sur le clown chocolat. Comment, en fait, mon projet même sur cet artiste a évolué grâce à des élèves d'un lycée technique qui nous ont dit que ce qu'on faisait, on ratait quelque chose, etc., etc. Donc, j'explique très concrètement l'effet que ça a produit sur moi et comment ça m'a permis d'évoluer aussi dans mon travail. Donc ça, je crois beaucoup à cette démarche-là. Mais voilà, alors maintenant, il faut mettre le doigt dessus pour voir ce qui n'allait pas.
En tout cas, vous venez de définir le projet de matière à penser. C'est une conversation sur France Culture.
Voilà,
je vous remercie, Gérard Noiriel.
Mais merci à vous.
Matière à penser, Gérard Noiriel, Olivier Dupré, Nino Lima, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous recevrons les porte-voix d'une autre histoire populaire, celle de Dolores Prato, qui raconte comme personne l'Italie rurale du 19e siècle. Ce sont ses traducteurs, Jean-Paul Manganaro et Laurent Lombard, qui viendront nous en parler. Bonne soirée.